Mesdames, Messieurs, après avoir vu un certain nombre de rites d'entrée dans la famille et liés à la majorité des membres de cette famille, nous nous sommes occupés des rites réguliers célébrés dans les familles. Outre les vœux liés à des événements familiaux, comme les voyages, les retours, nous avons analysé les rites célébrés tous les matins et aux jours marquants du mois ou de l'année. Ces sacrifices pouvaient être relativement importants dans les familles aisées, puisque le dictateur Sylla, en 81, a cru bien faire de restreindre par une loi les dépenses somptuaires qui pouvaient marquer ces rites réguliers du mois. Les banquets liés à ces sacrifices étaient des moments de convivialité importants pour l'ensemble des membres de la famille, les libres comme les non-libres, et même pour la clientèle sociale des grandes familles. Nous avons repris une satire de Juvenal qui paraît décrire la foule des clients, des clientes, qui se pressent devant la maison du patronus pour recevoir et consommer sur place une part du sacrifice domestique. Pénétrant dans la maison, nous avons ensuite observé les rites de banquet grâce à l'extraordinaire dîner de Trimalcion, croqué par Pétrone dans le Satyricon, et qui décrit à sa manière le déroulement de cette cérémonie avec sa libation à l'empereur, en fait au génie de l'empereur, et au dieu Lar. En exploitant les poètes romains du début de l'Empire, nous avons décrit ensuite les cérémonies des anniversaires du maître de maison, des fêtes régulières du calendrier de la famille, du maître de maison ou d'amis puissants de celui-ci. Cette enquête nous a permis de découvrir un nouvel exemple de refus d'acquitter un vœu à son génie, cette fois-ci signifié par l'exilé Ovide qui se morfondait au bord de la mer Noire. Dans les familles sénatoriales, ces fêtes d'anniversaire pouvaient même comporter des jeux et des récitations d'hymnes. Au centre de toutes ces célébrations se trouvent toujours les lares et le génie du personnage honoré. C'est, je crois, le moment de présenter brièvement le génie. Beaucoup d'entre vous connaissent cette figure divine dont je vous entretiens souvent ici. Je vous montre les textes qu'il faut citer à son propos. Lorsqu'on a lu ça dans le temps, nous n'allons pas revenir. On trouve le génie dans les sanctuaires publics et privés. Le genius est la divinité qui naît au moment où naît une chose ou un être vivant, une collectivité, et il disparaît le jour de la mort de l'individu ou de la fin de la chose, de l'institution en question. Rappelez-vous, l'an dernier, nous avons parlé des dieux qui naissent et qui meurent, qui, dans le polythéisme romain, est une figure assez banal, eh bien le genius est de ces figures-là. À la maison, on vénère le génie des individus, avant tout celui du chef de famille, dans le public, culte public, hein, on honore celui de l'empereur ou bien celui de Rome ou du peuple romain, par exemple. Cette divinité éphémère traduit toutes les capacités d'action telles qu'elles se sont constituées le jour de sa naissance. Ce génie a suscité de multiples discussions entre érudits et comme l'an dernier, je vous renvoie encore aux travaux de Georges Dumézil sur le sujet qui sont à peu près encore à cette heure-ci ce qu'il y a de plus raisonnable. J'ai dit tout à l'heure que le génie est le plus souvent représenté au milieu des deux lares. Vêtu d'une toge, il tient de la main gauche une corne d'abondance qu'il tend généralement, mais pas toujours, vers un autel, vers l'autel. À partir du début de l'Empire, donc vous le voyez là, ce personnage habillé en toge prétexte avec sa corne d'abondance et la tête voilée et la pater, c'est clair, c'est un génie, un genius, toujours. À partir du début de l'Empire, les mères de famille, et notamment la femme de l'Auguste, ont aussi une Junon, qui est l'équivalent du genius et qui est représenté de la même manière. Il est cependant très rare d'en trouver des représentations dans les maisons. Et à Pompéi, il n'y en a, à ma connaissance, aucune. En revanche, on a des statues publiques de Livy, par exemple, de la Juno de Livy. Et tout cela est attesté par des inscriptions, en tout cas dans l'Empire latinophone. Dans l'Orient hellénophone, on appelait ça la tuchée de quelqu'un, la fortune de quelqu'un. C'est la manière de traduire le genius. Ainsi, près de l'Ambèze, en Numidie, en Algérie actuelle, le génie et la Junon d'un couple sont honorés par l'épouse. Des vœux pouvaient aussi être faits à Junon, à la Junon d'une dame, comme le prouve une autre dédicace de Louni en Étrurie septentrionale, à la Junon de Justa, notre maîtresse, en acquittement d'un vœu pour leur bien-être, l'affranchie Cléanthus et sans doute les esclaves Phrixus, Phrixus et Hélé ont donné ceci au lard. La construction grammaticale de la phrase est un peu heurtée, mais on comprend parfaitement l'objet de la dédicace. L'affranchie et les deux esclaves ont offert une statue ou une statuette à la Junon de leur maîtresse pour leur propre salut, mais cette statuette a été placée dans le larère et ce faisant, elle a également été donnée au dieu lard. Mais Soua, ça peut être ambigu dans cette construction. Il est fréquent, en effet, que des statues de divinités, des statuettes notamment, comme ici, soient offertes à d'autres divinités. Nous parlions tout à l'heure des clients d'une famille. Et la fois dernière, nous avons vu cette fête où se réunissent les clientes, d'après ma lecture d'une satire de Juvénal. Nous étions à Rome, mais il est évident que les mêmes structures sociales se retrouvent partout. À Milan, vers la fin du IIe siècle après Jésus-Christ, une base est ainsi dressée au génie, je traduis, et en l'honneur de Publius Tutilius Califon, Sévir Senior. Les Sévir sont une association de droit privé qui célèbre le culte de l'empereur, patron des 12 centuries du collège des Aerari de la colonie A, Milan, de Milan, Mediolanensis, hein, Aelia, Antonina ou Aurelia, suivant l'époque où nous sommes. On ne peut pas compléter le nom complet de la colonie de Milan. Négociateur de monnaie d'argent, très splendide personne, à la Junon de Publicia Pomponiana, fille de Gaius, digne matrone, son épouse, et à la Junon de Tutilia Pomponiana, fille de Publius. Vive les Constantii, Lucius Romatius Valerianus et Vocatia Valeria avec leurs enfants, clientes, leurs clients. Vous voyez que clients, au sens de protéger, est tout à fait dans le vocabulaire quotidien et ça se met sur une pierre. Cette pierre, justement, pose des problèmes dans le détail pour la compréhension, hein, notamment en ce qui concerne la nature du collège et le métier de Tutilius. Quelles sont ces 12 centuries du collège et puis ce collège des négociants ou des négociateurs, des négociants de monnaie d'argent. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas trop. Et les spécialistes, les numismates, discutent. Mais pour notre propos, la pierre est parfaitement claire. Des clients, c'est-à-dire un couple avec ses enfants, offrent cette dédicace, et peut-être ce qui était au-dessus, une statue ou Dieu sait quoi, qui était peut-être placée dans la chapelle domestique des Tutilii, leur patron, et ils acclament même cette famille des Tutilii sous leur surnom de Constantii. C'est une époque à partir de laquelle, peu à peu, les grandes familles ont un surnom. Et souvent, on met le surnom avant le nom du personnage et on les acclame sous ce surnom. La dédicace s'adresse, comme vous le voyez, au génie du père de la famille et au Junon, au pluriel, de son épouse et de sa fille. Beau témoignage de la largeur des dévotions familiales qui ne concernent pas seulement ceux qui vivent sous le toit de la maison familiale. Revenons aux fêtes domestiques, si vous voulez bien. Nous nous arrêterons plus loin sur les fêtes publiques qui sont célébrées par les familles. Continuons d'abord à commenter les rites célébrés dans le cadre domestique par les membres de la famille ou les amis. Nous avons déjà lu un graffito qui atteste l'acquittement d'un vœu de bon retour d'un légionnaire originaire de Sulmona, la patrie d'Ovide, dans les Abruzes. Nous parlerons des vœux qui sont acquittés par les individus dans des lieux publics plus tard. Mais ces mêmes services religieux étaient également faits à domicile, comme l'atteste la 12e satire de Juvénal. Le retour d'un ami du maître de maison est célébré d'abord dans un lieu de culte public, de toute évidence au Capitole, à en juger par les trois divinités concernées. Elle m'est plus douce, nous sommes donc au début du IIe siècle, elle m'est plus douce, Corvinus, que l'anniversaire de ma naissance, cette journée où l'autel de gazon, en fait, attend les animaux promis aux dieux. Souvent, on mettait une motte de gazon sur un autel en maçonnerie ou en métal, où on construisait un autel de gazon. Je conduis à Junon, à la reine, à Junon-reine, une agnelle de neige, une autre de toison pareille sera offerte à la déesse qui s'arme dans les combats de la gorgone mauresque, la gorgone de Maurétanie. Vous comprenez, c'est évidemment Minerve. Je conduis mauresque non loin, réservé à Jupiter tarpéen, Jupiter qui couronne la roche tarpéenne. Une victime pétulante tend et secoue sa corde et agite un front menaçant. Donc il annonce cela dès le début, mais ensuite il revient un peu en arrière et il se représente au moment où il va quitter la maison pour se rendre au Capitole, non sans avoir évoqué le danger de naufrage, enfin tous les dangers du voyage courus par son ami. Et avant de partir au Capitole, avec les victimes, je suppose, il demande à ses esclaves de préparer le sacrifice domestique par lequel il acquittera dans un second temps les vœux formulés à son Jupiter et au dieu Lar. Donc, allez, pueri garçon, que vos langues et vos cœurs soient recueillis, mettez des guirlandes dans les sanctuaires, de la farine sur les couteaux, décorez l'autel de terre tendre et la glèbe verboyante. Je vais vous rejoindre. Puis, ayant accompli, selon le rite, le sacrifice au Capitole, je retournerai chez moi, et où d'humbles figurines, luisantes d'une cire friable, se parent de modestes couronnes. Là, j'apaiserai le Jupiter domestique, j'offrirai de l'encens à mes lares paternelles, et je répandrai toutes les couleurs de la violette. Plus exactement, il est au Capitole, et il demande à ses serviteurs de préparer le service en annonçant son retour à la maison, où il fera la même chose, mais en cadre plus modeste. Il faut se souvenir de ce texte, car il ajoute un élément intéressant à notre dossier. La séparation entre culte privé et culte public apparaît dans ce cas totalement artificielle, puisque le même rite est célébré dans un lieu de culte public, même dans le plus grand lieu public de Rome, Capitole, devant les grandes divinités de la cité, et puis à la maison, dans un second temps, il y a une hiérarchie claire, devant les lares et Nostrumioem, notre Jupiter, le Jupiter domestique, comme le précise le poète. Nous avons également cité déjà le vœu, le graffito de la maison pompéienne de Iulius Polybius qui témoigne de l'acquittement du vœu pour la salus, le bien-être, le retour et la victoire de Gaius Iulius Philippus, même si dans ce cas, nous ignorons si le même vœu avait également été formulé et acquitté dans un lieu de culte public de Pompéi, si nous utilisons le parallélisme avec le texte de Juvénal. Les maisons comprenaient de nombreux témoignages d'invocations, dont nous avons déjà vu un certain nombre d'exemples. Ces invocations, ces dédicaces témoignent aussi de la vie commune que mènent dans la maison les dieux et les hommes. Ainsi peut-on lire dans une maison, ce graffito aussi, « Felicem Aufidium, Felicem Semper Deus Faciat », que le dieu, on ne sait pas lequel, rende heureux Aufidius, toujours heureux, à moins qu'il ne faille lire que le dieu rende Aufidius Félix, en considérant le premier Félix comme un surnom, toujours heureux, en faisant de toute façon un jeu de mots autour de cela. Dans une autre inscription, on trouve ce graffito-ci. Hic, sans H, hein, habitamus felices nosti faciant. C'est ici que nous habitons, que les dieux nous rendent heureux. Ce sont comme ça des petites inscriptions que des habitants ont fait dans leur maison. Nombreuses sont les invocations, évidemment, d'amoureux. Et souvent, c'est des graffitis. Dans un couloir du théâtre de Pompéi, un petit texte, en partie métrique, immortalise l'amourette entre Métée et Crestus. Métée cominiae, cominiaes, atelana amat Crestum corde, sit utrisque Venus Pompeiana propitia et semper concordes vivant. Métée, esclave de Cominia, Cominiaes, vous voyez comment on écrit le latin à Pompéi à l'époque, Atelana aime de tout cœur Crestus, que Vénus Pompéienne leur soit à tous deux propice, sit utrisque Venus Pompeiana propitia, et qu'ils vivent toujours en concorde. Atelana est certainement une qualification professionnelle, et notre Métée était vraisemblablement une actrice du genre théâtral appelée les Atellanes. Ce sont des petites farces qui tiraient leur origine d'une ville proche de Pompéi, Atella, et qui, populaire sous la République, donc avant Jésus-Christ, redevinrent populaires au 1er siècle après Jésus-Christ. Car je vois mal une esclave donner une origine de cité comme le ferait un homme ou une femme libre. Son origine, elle la donne, esclave de Cominia. C'est la seule origine qu'elle peut donner. On constate que la déesse civique de Pompéi était donc aussi invoquée en privé pour des affaires privées. Ce ne sont pas les seules invocations de ce type qu'on trouve à Pompéi. Voyez celle-ci. Tu pupa sic valeas sic habeas veneram pompeianam proputiam, avec un U qui aurait fait rire Catulle, un Ypsilon. Toi, petite, ou pupa, on dit encore aujourd'hui en Italie pupa à une femme, que tu te portes bien, que Vénus pompéienne te soit propice, ce qu'a marqué un admirateur dans le couloir d'une maison. Mais parfois, cela ne se passait pas si bien, et la patronne de la cité n'est pas alors seulement invoquée pour faire durer une union, mais ou procurer la bonne fortune. Mais elle a des problèmes avec ses adorateurs, un peu comme dans les vœux, n'est-ce pas ? Les dieux sont des partenaires et on peut les secouer quand on le juge nécessaire. Un ou une inconnue en ont manifestement contre Vénus. Dans deux distiques élégiaques, on lit ceci. Quisquis amat veniat, celui qui vienne, quel qu'il soit, que celui qui aime, quel qu'il soit, vienne. Veneri volo frangere costas, je veux casser les côtes à Vénus. Fustibus et lumbos debilitare deae, et écraser les reins de la déesse. Ou les reins, c'est aussi souvent, en argot, les parties génitales de la déesse. Si potis illa mihi tenerum pertundere pectus, cur ergo non possim caput illae frangere fuste. Si elle a pu percer ma tendre poitrine, pourquoi ne pourrais-je pas casser sa tête avec mon bâton ? Il s'agit manifestement d'un amour malheureux, pas tellement malheureux puisqu'il arrive quand même à faire des vers, car le texte me paraît un peu trop violent pour être seulement un reproche fait à la déesse, de l'avoir rendu, l'auteur, amoureux, qui dit « tu m'as percé avec une flèche la poitrine, moi je vais te casser, tu m'as rendu vraiment fou avec ça, etc. » Je pense que c'est plus violent que cela. Et l'auteur du texte convoque tous ceux qui sont comme lui malheureuses en amour, en fait, pour dire à tous sa colère contre la déesse. Donc, un amour malheureux, à mon avis. Un autre graffito au style beaucoup plus, un peu balbutiant, si vous voulez, traite Vénus de Plagaria, peut-être la fouetteuse, parce qu'elle veut s'en prendre à son ami qui est faible. Elle dit « mon faible ». mon faible, mon ami faible, et provoquer une bagarre dans les rues. C'est pourquoi il demande de bien naviguer, la demande est qu'il navigue bien, ce que demande aussi son ario. Quelle que soit l'interprétation de ce texte un peu difficile, il est clair que Ario, qui est une femme, accuse Vénus de fouetteuse parce qu'elle voudrait faire du mal à son amant qu'elle juge trop faible pour se battre dans les rues et qu'elle pousse manifestement à aller dans les rues quand même. Et l'homme et Ario demandent bon vent en quelque sorte. Il se peut que la plagaria soit aussi la pelagia, une sorte de corruption, la Vénus maritime, ce qui permet un autre jeu de mots sur la bonne navigation. En tout cas, la dame est fâchée contre Vénus qui met son ami dans des situations impossibles. Parfois, les invocations sont plus directement utilitaires et moins poétiques, si vous voulez. L'une des catégories d'invocations qui font le bonheur des guides d'aujourd'hui à Pompéi sont celles qui concernent l'hygiène des lieux communs. Ce texte, très soigné sur le mur, aussi soigné que sur ma diapositive, commence par la menace habituelle « cacator cave malum ». Je n'ai pas besoin de traduire le premier terme. On lui demande donc de prendre garde au châtiment. Prends garde au mal. « Aut si contempseris » ou alors « si tu méprises cet avertissement », Habeas iovem iratum, tu auras Jupiter, que tu es Jupiter en colère contre toi, c'est-à-dire tu auras Jupiter comme ennemi. Nous verrons plus tard d'autres invocations de ce type, par exemple contre des voleurs, des invocations qui consistent à impliquer une divinité dans une affaire de vol entre mortels, pour que les coupables soient punis. La fresque suivante, avec son inscription, montre implicitement toute cette même affaire. Vous voyez un individu dans une position indéniable et au-dessus de sa tête, l'avertissement habituel, « cacator cave malum ». Et au lieu du texte qui explicite le graffito que nous venons de lire, la menace est cette fois-ci représentée par l'image, à droite de l'indélicat personnage. Vous voyez Fortune avec son gouvernail et sa corne d'abondance qui regarde de façon, disons, un peu embarrassée par-dessus la scène. Mais il est clair que c'est elle qui est impliquée dans le châtiment, incarnée par les deux serpents, les serviteurs de la déesse qui attaquent le cacator. C'est, soit dit en passant, un bel exemple d'une image dont l'inscription nous permet de déchiffrer sans problème la signification, mais qui parlait aussi aux analphabètes qui auraient la tentation de s'oublier à cet endroit. Nous ne pouvons malheureusement pas dire si Jupiter ou Fortune possédaient un petit lieu de culte dans les environs du couloir où était brandie la menace, ou s'ils sont simplement invoqués en tant que grandes divinités. Thomas Fröhlich, dans son catalogue des peintures de l'arrière et de façade pompéienne, attire l'attention sur le podium en terre cuite, on dirait que c'est des briques, sur lequel notre coupable est accroupi, qui serait peut-être un lieu destiné à des sacrifices, mais c'est une pure hypothèse. On trouve aussi régulièrement dans les atriums, ces grandes pièces d'entrée ouvertes qui constituent la première pièce des grandes maisons, ou dans les cuisines de ces maisons, des dédicaces qui émanent des familiares, des membres de la familia, de la domesticité au sens propre. En voici quelques exemples. Commençons par celui qui est sans doute la plus connue, la dédicace au génie du banquier Lucius Caecilius Jucundus, dont les activités économiques ont été étudiées par Jean Andreau dans un livre qui s'appelle « Les affaires de M. Jucundus ». C'est un de ses affranchis, Félix, qui fait la dédicace au génie de notre Lucius, comme il dit, cette manière courante de désigner le maître ou le patronus à l'intérieur de la famille. Et vous voyez que le genius a absolument la même tête que... à la verrue près que notre ami Jucundus. C'est vraiment son double divin, en quelque sorte. Un graffito quasiment identique, se trouve dans la maison d'Epidius Rufus, au génie de notre Marcus et au lard, les dieux d'Iadumenus, ses affranchis. Ou encore ce graffito qui rappelle que l'affranchi Philoxène, gardien du lieu de culte, sans doute la petite chapelle domestique, parce qu'il est sacristain, littéralement, c'est sa fonction, a donné ceci au lard et au lard de la familia, lares familiaribus. Les esclaves ne sont pas absents dans ces dédicaces, comme dans celle qui mentionne que Félix et Dorus, les préposés, les magistris, ont donné ceci, nous ne savons pas ce que c'est, au lard de la familia, laribus familiaribus, les lards de la domesticité, comme faisant partie de la domus, de la famille. Les préposés, les magistris, vraisemblablement, ça c'est un témoignage qui vous montre que ces esclaves, dans des familles assez aisées, étaient groupés en association avec des préposés, des fonctions comme gardiens des lieux de culte, etc., domestiques. Les inscriptions étaient généralement fixées sur l'objet offert ou inscrit sur sa base, comme dans le cas du buste de Julius Jucundus. On trouve ce genre d'inscription partout, à Pompéi comme ailleurs. En voici un exemple qui provient du milieu particulier des affranchis impériaux de Rome, et sans doute d'une habitation. Gemellus Pompeianus, affranchi de l'Auguste, qui aime tous les dieux, a fait faire ceci et l'a donné en don. L'inscription est assez intéressante pour l'histoire de la famille impériale et de la familia impériale. Vous avez vu qu'à la deuxième ligne où on corrige Pompeianus, le P est corrigé, le sculpteur avait écrit Topaianus. Il avait fait une erreur parce que ce nom n'existe pas. Et cela permet de comprendre qu'il s'agit d'un ancien esclave de la familia de l'impératrice Poppée, qui est ensuite passé, après la mort malheureuse de Poppée, dans le patrimoine de Néron, de l'Auguste, après donc sa mort, et que Gemellus a ensuite été affranchi par l'Auguste, par Néron, ou alors par Vespasien, enfin un des empereurs successifs. Ça peut arriver qu'il était esclave jusqu'à au moment où un autre empereur a pris le pouvoir, et c'est celui-là ensuite qui en a hérité et qui l'a libéré. Quand nous n'avons pas la chance de connaître le contexte, nous sommes amenés à supposer que les dons sont soit des peintures de l'arrière, comme celles que vous connaissez, soit des statuettes ou un autre aménagement de l'espace rituel. Ces documents prouvent en tout cas que la communauté domestique, dans son ensemble, participait à la vie cultuelle et à l'équipement et l'entretien des lieux de culte domestique. L'un des grands pans de la religion antique était constitué par la divination sous toutes ses formes. Nous avons déjà vu que certains actes rituels sont suggérés par les divinités elles-mêmes, soit qu'elles apparaissent en songe pour transmettre le message, soit que l'individu les consulte pour obtenir une réponse sur ce qu'il convient de faire. Et ça, c'est déjà de la divination, si vous voulez. Deux auteurs, Valère Maxime et Servius, le commentateur de Virgile, précisent que chez les anciens, on ne pouvait rien faire sur le plan public ou sur le plan privé sans prise d'auspice, notamment prendre femme et labourer un champ. Servius, à vrai dire, parle de sacrifice. Et il est vrai que rien ne se fait à Rome sans sacrifice, mais en l'occurrence, il est permis de penser que les sacrifiants opéraient pour inspecter la fraissure, les extas, afin d'y recueillir, d'y lire l'assentiment des dieux, ou bien un signe contraire, ou encore autre chose. Nous ignorons si la référence ainsi faite par ces deux auteurs aux antiqui ou aux veteres, les anciens, les ancêtres, signifie qu'au début de l'Empire, quand Valère Maxime écrivait, et surtout au 5e siècle après Jésus-Christ, quand Servius rédigeait son commentaire, nous ignorons donc si la pratique des hospices privés n'existait plus, comme Valère Maxime paraît l'affirmer. En fait, d'après ses propres dires, même si la vieille pratique n'existait plus, on continuait à employer la formule, ou plutôt la fonction. Il semblerait que les auspices, qui ne sont pas des actes ici, mais des hommes, les preneurs d'auspices, étaient désormais simplement le titre donné aux garçons d'honneur des mariés. Les lieux de culte publics témoignent en fait de ce que les Romains de la fin de la République et de l'époque impériale continuaient à consulter les oracles les plus divers pour leurs affaires privées, et donc ce ne serait pas impossible du tout d'imaginer que les auspices matrimoniaux aient continué comme avant. En tout cas, à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, une dame, la fameuse Caecilia Metelli, Caecilia épouse Metellus, se rend en compagnie de sa nièce qu'elle voulait marier, in matrimonium conlocare, dit joliment Cicéron, placée dans le mariage, dans un temple hominis capiendi causa, pour recueillir un signe, vous voyez, selon la manière ancestrale, vous voyez la sollicitude des tantes pour leur nièce. Vous connaissez peut-être l'anecdote. La tante s'assied, la nièce reste debout et elles attendent un signe. On ne sait pas dans quel temple c'est, mais imaginons que c'est Iuno Licina, par exemple. La séance se prolonge et à un moment donné, la nièce, fatiguée comme tous les jeunes, demande à sa tante si elle peut la laisser s'asseoir un moment. Mais il ne se passe toujours rien, si bien que dépitées, les deux femmes finissent par rentrer. Pourtant, quelque temps après, on comprit que signe il y avait eu. La tante, qui avait répondu à la demande de sa nièce, « Mais oui, ma fille, je te cède ma place », mourut, et son mari, l'oncle, épousa la nièce. Vous vous rappellerez aussi l'habitude moins pittoresque de Scipion l'Africain, que nous avons commenté quand nous parlions de la religion chez Tite-Live. Il avait coutume de se rendre tôt le matin, à l'heure où on prend effectivement les auspices sur le forum, les magistrats. Il se rendait au temple de Jupiter Capitolin. Il entrait dans la cella de Jupiter. Il demeurait un certain temps pour discuter avec le Très-Haut des affaires publiques ou privées qu'il aurait à gérer durant la journée. Une consultation divinatoire très spectaculaire, certes, mais qui ne reflète pas la prétendue nouvelle religiosité. Elle est très proche du comportement de Caecilia, épouse Metellus. Il se peut que dans les grandes familles, la divination vraiment spectaculaire et très people de ce type ait été courante et peut-être plus répandue que dans les milieux modestes, où on allait dans des petits temples ou des chapelles de quartier. Mais elle devait continuer, je crois, à se pratiquer. On citera comme preuve en faveur de cette présomption un texte de Lucain qui décrit le remariage lugubre de Marcia et de Caton d'Utique, Caton qui avait auparavant cédé son épouse à deux autres maris pour qu'elle leur fasse des enfants, parce que leur femme n'arrivait pas à avoir d'enfants, et qui, à la fin, réépouse la sienne, et en précisant que le mariage fut célébré auspice bruto, Brutus servant d'auspex, de preneur d'auspice. Donc, manifestement, cette fonction existait toujours, et Lucain ne fait aucun commentaire, évidemment, il considère ça comme normal à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Les descriptions, d'autre part, que fait Tacite du mariage de Messaline, la femme de Claude, hein, elle avait trouvé que suffisait le mariage avec Claude, avait vécu et elle épousait un de ses amants, ce qui a été assez fatal. Et donc, lors de ce mariage, vous voyez qu'on parle encore une fois des preneurs d'hospices. Et puis, il y a aussi le mariage célébré entre Néron et un de ses mignons qui mentionne lui aussi les auspices. Mais si une consultation de preneurs d'auspices paraît s'être maintenue, nous ignorons en revanche en quoi consistait leur rôle et s'il y avait un rite encore. Les deux premiers passages que j'ai cités, enfin les deux derniers passages que j'ai cités, donne l'impression que les preneurs d'hospice avaient plus qu'un simple rôle de figurant. Manifestement, ils devaient au moins dire une formule ou réciter une formule, de toute évidence de bon augure. Ils devaient dire les signes sont favorables, les dieux sont favorables, ou Dieu sait quoi, en faveur du rite qui allait être célébré. S'agit-il du résultat d'un véritable rite de consultation divinatoire dont ils annonçaient au moment venu le résultat, ainsi que le terme « mitere » envoyé peut le laisser attendre. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agissait d'une extispicine, d'une consultation des extades, d'une victime sacrificielle, de la fraissure de cette victime, comme le commentaire de Servius semble le laisser entendre, puisque lui, il parle aussi de sacrifice. Ou bien a-t-on affaire à un autre rite ? Sous l'Empire, on peut aussi songer à l'établissement d'un horoscope, une pratique qui se répandait de plus en plus. C'est le résultat de cette opération divinatoire qui aurait pu être annoncée par les preneurs d'hospices envoyés prendre les hospices, d'après le texte concernant le mariage de Néron, Missi Auspices. Mais il est vrai qu'en dehors du cadre des rites nuptiaux, il est fait assez peu mention d'actes divinatoires privés exécutés à domicile. Et nous en sommes renvoyés toujours à des encyclopédies. Ainsi, un passage de Festus évoque la fraissure royale, regalia exta, un terme qu'il explique ainsi. Il promet aux puissants un honneur inespéré, quand on le trouve dans une victime, aux particuliers, aux humbles, un héritage, aux fils de famille, le pouvoir dans la famille. Ce qui laisse supposer que les sacrifices divinatoires accompagnés de ce genre d'inspection des extas étaient pratiqués de la même manière dans le privé, au moins au début de notre ère, encore quand le modèle de Festus, Verius Flaccus, composait le dictionnaire original dans l'entourage d'Auguste. Donc là, on a l'impression qu'il se passe des choses comme cela, et des particuliers essayer de voir comme ça s'ils allaient toucher un héritage, et les fils de famille, si papa allait bientôt laisser la place à son fils, et si parmi tous les fils, il survivrait assez longtemps pour prendre le pouvoir, enfin quelque chose dans ce genre. Varron et le commentateur de Virgile, Servius, qui le cite, affirment par ailleurs dans leur discussion sur la divination étrusque que rien n'est plus contraire au mariage qu'un tremblement de terre et du ciel. C'est pourquoi certains voyaient dans Tellus, terre, la déesse terre, la patronne réelle des mariages, et c'est pourquoi les jeunes filles ou les mariées, lorsqu'elles commencent la procession qui va les conduire dans la maison de leur mari, ou au moment de leur arrivée dans cette maison, sacrifient à Tellus, à terre. Mais Junon Pronuba, l'assistante du mariage, aussi communiquerait, toujours d'après ce texte, ses signes à travers les tempêtes et les pluies. Pure érudition ou commentaire en marge de pratiques quotidiennes dans telle ou telle famille. Il est difficile de trancher. À l'époque de Servius, ces pratiques s'étaient largement perdues. Mais à l'époque de Varron, qui est donc la source primaire, elles conservaient sans doute encore une certaine réalité. Nous avons fait allusion il y a quelque temps à une catégorie de fêtes publiques, celle que les juristes appelaient les sacra popularia, rites populaires, cultes populaires en traduction littérale. Il s'agit de rites officiels de la religion d'État qui figurent sur le calendrier public ou sont annoncés chaque année par un magistrat parce que certaines de ces fêtes étaient mobiles, et qui sont d'ailleurs directement célébrés par le populus, par les chefs de famille ou leurs épouses, pour le bien de l'ensemble de l'État, de la res publica. Les officiants sont le populus, les citoyens, et pas leurs représentants, les magistrats ou leurs prêtres, ou les prêtres. Ces fêtes sont, d'après la liste courante donnée par, toujours le dictionnaire de Festus, les Fornacalia, les Parilia, les Compitalia, la Porca Praecidania, la truie Praecidanée. À ces fêtes, il faut ajouter encore les Matronalia, les Lemuria, les Matralia, les Meditrinalia, la fête de Bonadea, et puis, voilà, c'est l'ensemble des fêtes qu'on peut considérer comme les Popularia Sacra. Il y en a un autre dont je vous parlerai, on y viendra, mais il est déjà marqué, c'est les Feralia, la fête des morts. Ces fêtes n'étaient pas toutes des fêtes domestiques, même si elles étaient célébrées par les membres des familles romaines. Ainsi, les Compitalia, la fête des carrefours, étaient-ils célébrés par les chefs de famille qui habitaient un même secteur, un même vicus, comme disaient les Romains. Voilà une des chapelles qu'on pouvait trouver au carrefour, et dans cette chapelle, il y avait notamment les Lars Auguste et le génie d'Auguste qui étaient représentés. Et puis, il y avait d'autres divinités plus spécifiquement liées au quartier. Mais ce sont tous les quartiers de Rome, plus de 200, 260, je ne me rappelle plus exactement, qui célébraient en même temps, au début de l'année, ces Compitalia. Donc, c'est une fête d'État célébré par les habitants des différents quartiers de Rome. Le rite public des Matralia, quant à lui, était célébré dans le temple de Mater Matuta, sur le forum Boarium, par les matrones romaines, et seulement elles. On pourrait y ajouter, d'ailleurs, les rites de Pudicitia Patricia, la pudeur patricienne ou la pudeur plébéienne, cette vertu civique éminente des matrones, des femmes mariées. On pourra y ajouter aussi les sacrifices offerts auprès de Bonadea, la bonne déesse sur l'Aventin, ou les rites qui étaient effectués auprès de Fortuna Muli Ebris au 4e mille de la Via Latina, toujours par les matrones et les matrones seules, qui avaient même eu le droit du Sénat de consacrer elles-mêmes ce temple de la fortune des femmes, au moment où, d'après la légende, elles avaient arrêté Coriolan, qui menaçait Rome. Mais certaines de ces fêtes se célèbrent aussi, et surtout à domicile. Nous ignorons évidemment tout du calendrier festif des familles, à Rome comme en Italie ou dans les provinces. Mais en guide d'exemple, nous pouvons citer à Rome, et sans doute dans beaucoup des cités d'Italie ou des provinces, un certain nombre de fêtes qui correspondent à cette catégorie. Les Feralia, du 21 février, lors desquels la famille allait célébrer sur les tombes des siens, sous la conduite des chefs de famille, les rites funéraires qui se concluaient par un banquet organisé à domicile et auquel tous les parents participaient. À la partie publique, popularis, de tout le populus de la fête sur les tombes, et qui est donc célébré en un lieu public, la nécropole, correspond, de l'autre côté, le caractère fermé des rites accomplis au domicile, les charistias, le moment de chère famille où on se retrouve entre parents. Les Lemuria, du 9 au 13 mai, je vous remontre les dates, constituaient un autre rite privé pittoresque dont il n'est cependant pas certain qu'il ait encore été célébré à l'époque impériale. Toujours est-il que la fête est toujours inscrite sur les calendriers du 1er siècle après Jésus-Christ et Ovid raconte ce qui s'y passe. Ce rite concernait le père de famille qui se levait à minuit et à travers un certain nombre de rites hostiles qui disaient sa volonté de n'établir aucun lien avec ses lémures, ses lémures, qui ne sont pas des petits singes, mais ce sont les esprits des défunts, des défunts mal enterrés, les mânes inquiets, c'est-à-dire les mânes de ceux qui habitaient cette région et qui n'avaient pas eu de funérailles régulières et qui, pour cette raison, n'étaient pas fixés dans une tombe et venaient tourmenter, d'après les croyances des Romains, les vivants. Donc, ils les expulsaient. Je ne sais pas si c'était encore célébré. D'autres fêtes étaient des rites publics célébrés pour le peuple romain dans son ensemble, tels les damia ou le sacrifice à Bonadea au début décembre, offert par les vestales, cette fois-ci il y a des prêtresses, et les matrones dans la maison du consul en charge au mois de décembre. Les hommes étaient écartés de ces derniers rites et ils étaient même exclus de la maison où le rite se célébrait, comme c'était également le cas au temple de Bonadea sur l'Aventin, dont l'anniversaire tombait le 1er mai. Le sacrifice qui était fêté par les matrones assistées des vestales dans la demeure du consul en charge au début décembre n'était sans doute pas célébré dans les autres familles. D'autres rites, donc c'était là vraiment un rite qu'ils célébraient en un lieu unique pour tout le monde. D'autres rites publics étaient confiés aux matrones, comme ceux qu'elles célébraient en l'honneur de Cérès, selon le rite grec, en octobre, juin et août. Le 8 octobre, et pour ça vous pouvez aussi voir le travail de Sterbench, le 8 octobre, elle observait le jeûne de Cérès du 16 au 24 juin. Elle cherchait à ce moment-là la fille de Cérès, donc du 16 au 24 juin, elle cherchait, c'est le terme rituel, avec des lamentations, la fille de Cérès, Proserpine, au carrefour de Rome et des cités de l'Empire, on a des attestations jusqu'en Afrique, avant de fêter son retour. 24 juin. Et enfin, au mois d'août, elles offraient le sacrifice anniversaire à Cérès, à la Cérès grecque, Déméter. Mais ce ne sont pas ces rites-là qui nous importent le plus ici. Ce sont les rites qui sont essentiellement privés, mais comportent cependant une partie publique, comme les funérailles, notamment la fête des morts. Les matronalia du 1er mars sont dans ce cas-là. Fête des matrones, des femmes mariées. Vous comprenez tout de suite ce que cela veut dire. Inscrit sur le calendrier comme anniversaire du temple de Juno Lucina, qui aide dans l'accouchement, le jour est au moins en partie consacré à une obligation cultuelle publique. Ce jour-là, qui est celui pour lequel Ovide raconte, comme par hasard, l'histoire des Sabines, qui imposent à leurs maris et à leurs parents sabins la paix et la concorde, les matrones reçoivent exceptionnellement un cadeau de leur mari. Normalement, les cadeaux entre époux sont interdits par le droit romain. Et se rendent couronnées sur l'Esquilin, au temple de la déesse, en lui offrant des fleurs et la suppliant pour la conservation de leur époux, de leur mari. Belle fête. Dans les commentaires qu'il donne de la fête, le poète Ovide fait allusion étrangement, quand on lit à première vue, au service militaire des femmes. Nous sommes le 1er mars, mois du dieu Mars de la guerre, n'est-ce pas ? Et à leurs vœux liés, donc il fait allusion au service militaire des femmes, et à leurs vœux liés dans les deux cas à l'enfantement. Elles font des petits guerriers, si vous voulez. La fête a duré très longtemps, puisque le Digeste enregistre encore au 6e siècle un règlement concernant les cadeaux faits par l'époux à sa femme au calende de mars, au 1er mars, et lors de son anniversaire aussi. Et vous voyez qu'à ce moment-là, si le cadeau est excessif, il constitue une donation, c'est-à-dire on essaye de tourner la loi, puisque les donations importantes, hein, ce n'est pas 5 sesterces qui sont en cause, les donations importantes sont interdites entre époux. En droit romain. Prenons les rites qui sont encore plus strictement cantonnés au privé. C'est d'abord le cas de l'offre des prémices des moissons ou des vendanges. Le primetium comprenait l'offrande à Cérès des premiers épis moissonnés, tout comme la sacrima était le mou dont la primeur était offerte à Libère pour la conservation des vignes, des vases et du vin lui-même. Et le même rite se célébrait pour les fèves. Dans tous les cas, il s'agit indéniablement de rites qui sont à la fois collectifs et essentiellement privés. Ce ne sont pas les magistrats qui le font. Sauf pour la première grappe dans l'Asium cueillie par le Flamine de Jupiter. Et ça donne le signe des moissons, des vendanges. Et c'est ces vendanges-là qui donnent ensuite lieu à l'offrande des primeurs. En lisant ces textes, d'ailleurs, de ces primeurs, on ne peut se soustraire à l'idée que c'est probablement ce type de rite agraire des primeurs qui a inspiré les créateurs du culte public que célèbrent depuis Auguste les frères Arval, dont je vous ai souvent entretenu ces échanges d'épis de blé verts et mûrs, etc. On donne du vin contre des épis mûrs, etc. C'est un langage gestuel qui traduit ces rites de primeur, dont nous savons malheureusement rien d'autre. Le sacrifice de la truie précidanée, que vous avez certainement vu sur mon tableau au mois de juillet, environ juin-juillet, praecidanea, vous avez dû vous demander à quoi ça rimait, c'est un sacrifice de truie offert à la déesse Cérès avant le début des moissons pour expier d'éventuelles ouvertures de la terre pour y déposer des morts, par exemple, qui auraient été célébrés pendant la période précédente. Caton décrit un double sacrifice fait en fait à Janus, le dieu des commencements, c'est normal qu'avant les moissons il soit là, à Jupiter et Junon, les dieux souverains, et à Cérès. On dit toujours c'est à Cérès qu'on offre cette victime, mais vous voyez, nous sommes en régime polythéiste. Ils sont en fait quatre. L'un pour ouvrir une activité, les moissons, mais les dieux souverains, le couple souverain, cette fois-ci sans Minerve, pour montrer la référence à l'ordre de... du rite qui concerne les choses les plus importantes, si vous voulez. Et peu à peu, ce sacrifice a été lié à la moisson. D'autres rites privés sont célébrés avec les voisins lors d'un bornage de propriété, très important à la campagne. Le géomètre Siculus Flaccus décrit ainsi, je vous montre le texte français, c'est peut-être plus simple, le rite selon lequel on plante les bornes autour des propriétés, après un sacrifice célébré en commun avec, bien sûr, les voisins. Le sang et la part du dieu sont jetés dans la fosse avec du vin, de l'encens et des fèves. Il est temps de faire un premier bilan de nos recherches. On constate que les données sont morcelées et qu'elles sont souvent, malheureusement, réduites. Et il faut faire flèche de tout bois. Elles ont malgré tout, pour notre enquête, livré de nombreuses données. Elles ont d'abord montré les liens qui existent fréquemment entre les rites domestiques et les rites publics. Et le choix de textes que nous avons parcourus révèle de la même manière que les rites sont en fait les mêmes pour les deux catégories cultuelles. Il n'y a pas de différence substantielle entre les deux types de cultes. En outre, certains de ces cultes domestiques comportent même deux parties, identiques pratiquement, sauf pour la splendeur peut-être, l'une qui est destinée au temple public, l'autre qui est célébrée à domicile. La vie religieuse privée, régulière et extraordinaire est par conséquent liée au culte public, et c'est l'ensemble qui constitue les obligations religieuses qui incombent au peuple romain. Certaines célébrations, dites dans le jargon des juristes et des encyclopédistes antiques, popularia sacra, nous venons de le voir, constituaient en fait des rites publics, des rites d'État, même s'ils étaient célébrés par les particuliers, les chefs de famille ou les matrones. Par ailleurs, les textes révèlent que la communauté privée, constituée par une maison, une domus, c'est-à-dire une famille, est hiérarchisée, et que chacun occupe sa place dans le tissu rituel. Entre les membres libres de la famille et la domesticité, la familia, comme on dit en latin, s'instèrent des amis, des clients, éventuellement des voisins, par exemple ceux qui avaient des propriétés contiguës avec celles de la famille, ou des habitants du même quartier, autour du même carrefour où se célébrait la vie religieuse du vicus, de la rue. Il s'agit de communautés plus ou moins larges dans lesquelles chacun a à remplir des fonctions quotidiennes. Les filles et les femmes célèbrent le culte régulier des lares, les hommes s'occupent des sacrifices liés aux banquets, généralement dans le cadre des fêtes familiales ou publiques. Les enfants font la disserte rituelle avec les esclaves de la famille et ces derniers assurent le culte dans les propriétés de la famille quand les maîtres sont absents. Nous disposons de certains renseignements sur ces communautés et nous en avons d'ailleurs vu déjà un certain nombre d'exemples. Voici quelques données supplémentaires. Dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, Caton décrit une de ces réunions qui prenait place dans les maisons, et cette fois-ci, comme toujours chez Caton, dans un contexte assez cocasse. Le grammairien Festus signale, en parlant de l'annulation des assemblées publiques décidées en raison d'une maladie, que Caton rapporte le fait suivant dans son discours sur le sacrifice irrégulier. On aimerait bien l'avoir, ce discours, mais malheureusement, c'est tout ce que nous avons. Il écrit « Quand nous prenons les hospices à domicile, donc au IIe siècle avant Jésus-Christ, ça se faisait parfaitement, je voudrais avoir eu rendu hommage aux dieux. Si l'un des esclaves, donc lui, il veut que la cérémonie soit parfaite, si l'un des esclaves ou des servantes a pété sous son vêtement, sans que je m'en aperçoive, il ne me fait aucun tort. » Ça, c'est du Caton, hein, c'est comme ça que parlaient les Romains de l'époque. Si la même chose s'est produite pendant que l'esclave ou la servante dormait, ce qui d'ordinaire empêche les assemblées publiques, hein, même cet acte ne constitue pas un vice pour moi. Ce texte constitue d'abord un témoignage très intéressant de jurisprudence rituelle domestique, dans laquelle le chef de famille décide de ce qui constitue un vice rituel susceptible d'annuler un acte religieux qui est en cause. Ce sacrifice divinatoire, manifestement, ou une prise d'hospice. Nous ne savons pas comment ça se déroulait. Il précise même que sa jurisprudence n'est pas la même que celle du droit hospicial public, qui normalement annule les assemblées qui rencontrent la même incongruité, qui était manifestement considérée comme un signe de mauvais augure. Ensuite, et c'est cela qui nous intéresse ici, ce n'est pas une religion universelle. Là, vous avez l'exemple. Il dit nettement ce qui est dans la religion d'État, c'est très bien, mais chez moi, à la maison, je décide que c'est comme cela. Ensuite, et c'est cela qui nous intéresse ici, la description de Caton implique aussi que toute la familia participe au culte domestique. Ses enfants, ses fils, sa femme, mais aussi les esclaves et les servantes. C'est un acte collectif. Quand on prend les hospices, hein, même la divination, qui concerne tous ceux qui font partie de la domus et de la familia. C'est d'ailleurs ce que Caton, dans son traité sur l'agriculture, rappelle à la Willica, à l'intendante, qui est une esclave, une de ses esclaves. Celle-ci n'est habilitée à agir religieusement que sur l'ordre du maître ou de la maîtresse, puisque le culte est célébré pour toute la maison. Il ne dit rien des dévotions personnelles auxquelles pourrait s'adonner la Willica, car elle ne le concerne pas, dans la mesure où elle ne crée pas d'ambiguïté ni de désordre en utilisant, par exemple, l'autel domestique pour ses pratiques personnelles ou en faisant des graffitis discrets près du larère, comme ceux que nous avons pu lire. Non pas qu'elle n'ait pas le droit d'utiliser cet autel. Nous avons vu que les esclaves font des vœux auprès des autels familiaux. Ces vœux s'inscrivaient dans la vie religieuse domestique, mais il faut penser que dans chaque famille, la coutume réglait cette liberté qui impliquait d'ailleurs, soit dit en passant, que les esclaves puissent disposer de moyens leur permettant d'offrir quelque chose au lard ou à d'autres divinités. Pour tout cela, ils avaient besoin d'une autorisation générale ou ponctuelle. Et aussi ça peut aussi signifier que leurs activités dans des maisons un peu plus vastes pouvaient même s'inscrire dans le cadre d'un collège domestique où ce genre de décision était éventuellement annoncée, discutée et autorisée. En tout cas, eux aussi, les esclaves, appartenaient en premier lieu à la communauté religieuse domestique. Voilà, je vous montre encore une peinture que nous commenterons la prochaine fois, où vous voyez, comme chez Caton, la famille réunie autour du maître de maison et en train de sacrifier. Voilà, je vous remercie.